Bonjour à tous et à chacun, toutes et à chacune. La route inconnue semaine 16 vous emmène aujourd'hui au Québec, à Montréal, où nous attend un OPNI, un objet poétique non identifié, mêlant texte, musique, mêlant aussi les langues françaises, gaélique et mohawk, les mohawks étant une tribu indienne. Nous parlerons aussi en seconde partie d'émission du dernier livre de Cécile Guivarch, poète animatrice du site Terraciel et chroniqueuse sur la route inconnue. Et puis, comme d'habitude, vous retrouverez les chroniques de Claude Verset et Patrick Jokel. Il y a quelque temps, la Maison de la Poésie de Montréal, sur le continent nord-américain, je ne vous apprends rien, nous a adressé une œuvre poétique remarquable. Seulement, il ne s'agit pas d'un livre, pour une fois, mais d'un disque. Havre, c'est le nom de cette œuvre et le résultat d'une collaboration entre un poète, Sylvain Campeau, et une artiste sonore, Chantal Dumas. Une fascination commune pour l'artificialité de certaines parties de Montréal qui furent construites pour le développement industriel et culturel de la cité a tout déclenché. Inspiré par le remplissage dont est issue l'île Notre-Dame, créée pour l'exposition universelle de 1967, et le travail d'excavation dont le canal Lachine est né, eh bien les artistes ont conçu cette fiction poétique où les voix de trois personnages en provenance d'époques différentes s'entremêlent, métissées d'échos de mots en langue mohawk et irlandaise. Le poète José Acklin et la performeuse Catherine Kidd ont ajouté leur voix à celle de l'auteur. Sylvain Campeau est poète, critique d'art, essayiste et commissaire d'exposition. Il cherche depuis quelques années l'opportunité de travailler en collaboration avec des artistes d'autres disciplines de manière à créer une œuvre conjointe comme Havre. Et Chantal Dumas, sa partenaire, donc artiste sonore, explore le médium du son à travers des installations, des fictions documentaires, radiophoniques. Et puis, elle a créé également ce qu'on appelle le design sonore. Voilà, je vous propose d'écouter cette musique. Je vous donne avant cela quelques petites infos sur notamment le canal Lachine, qui est une construction de 14 kilomètres. Le projet de ce canal remonte à 1700, mais c'est en 1821 que la construction a commencé. Il a notamment permis de contourner les rapides de Lachine et d'assurer le passage sur le fleuve Saint-Laurent, permettant de continuer jusqu'au lac Ontario et même d'aller chercher la rivière des Outaouais, permettant de remonter vers le nord, vers Ottawa, qui à l'époque, évidemment, n'existait pas. Et ce sont les Irlandais arrivés dans les années 1840-1860 qui ont été les ouvriers de cet ouvrage, d'où le recours à la langue gaélique dans cette œuvre musico-poétique. Voilà, je vous propose sans plus tarder d'écouter donc cette œuvre, Havre, que nous devons à nos amis Chantal Dumas et Sylvain Campeau. À la narration, l'arrivant est joué donc par José Acklin, Sylvain Campeau est l'enrocheur, Catherine Kidd joue le rôle de Marie Gallagher, Trina Stacy fait la voix d'une indienne, et puis vous avez également une voix irlandaise qui est interprétée par Sigan Mac Ant Sioneg. Et voici à présent Havre.
Thank you. Je n'y étais pas. Mais je sais.
Gawik Noge.
Gawik Noge.
Je sais ce qui s'est passé.
Gawik Noge.
Jojage.
Je n'y étais pas, mais je sais.
Gawik Noge. Gawik Noge.
Mais je sais, moi, Mary Gallagher.
Nira Mehenel. Achtasa Gome. Tussa. Margeni Hugon. Bana Gno and Dalusi Agus William.
Jo Jage.
Tasagum Kadaharla.
Je suis d'ici comme le passant au fin bout du parc de la cité du Havre. Debout sur cet obélisque couché qui pointe vers les arrivées. Moi, je suis l'enrocheur. Et j'imagine les dates anciennes depuis mon 21e siècle. Et cette cité des âges âpres des hommes de leur terre. Sur cette pointe qui flotte sans attache naturelle, la cité du Havre s'éternise en péninsule étroite. 1,75 million de mètres cubes de terre, prothèse du quai de garde et de la jetée Mekai, de l'îlot normandin aussi peut-être. Et sa voisine confond ses îles en une. Sainte-Hélène avale les îles rondes et vertes. Et Moffat a engraissé jusqu'à se faire Notre-Dame. Tout cela pour exposer universellement Montréal dans des sites traités au Botox, résidus terriens du métro de 1966. J'enrobe ici la pierraille de gaine métallique pour en prévenir la dérobée. Je suis le réparateur des terres jetées, veilleur des soutènements du lieu sur cette île Guyon, d'abord créée pour éviter les débâcles du printemps. L'Ast savait lancer assaut aux murs âgés de la vieille ville trop confiante en son fleuve. Car la langue de terre ne le fut pas toujours.
J'aurais, pleine mer, dérivé. Sous le soleil ample et la coupe du vent.
Rien ne se dressait d'abord à l'obstacle. Et les navires d'antan misèrent sur la pleine eau.
Entrés par la large bouche du fleuve,
évitèrent rapides et cavalcades frivoles pour la mise en rade auprès de la butte et passèrent là où n'était rien encore.
Pour arriver ici, jetés, avant rapides et ovides, avec, derrière moi à flotter aussi au-delà, la plus grande part de Cañaraloana.
Mais, moi, je porte la terre en terre, et l'inhume.
En premier débarquement, avant Cartier déjà, avant Caboto même, j'ai touché terre, devant une île en sentinelle, en vigie d'une autre, plus grande, bombée d'une montagne au front de baleine, avec traces de passages fréquents et d'échanges fructueux.
The word we use to refer to Montreal is
Jojage.
Onunda.
Mountain?
Onunda.
And we say Onunda. Onunda.
Onunda. Onunda.
Scott Nigura.
Kwaknage.
Gansalowana.
Kwaknage.
Okay, path. Or you could say depending on what side of Kahnawake you live. So the first word is river. We say Ganyadaruana.
M'accueille d'abord ceux du déjà là qui se disent Kanyenkehaka. Il nomme ce lieu Chujage, pied de la montagne Ononta, là où le groupe se sépare. J'ai exploré, comme et avec eux, le tout de ce monde, trouvé chemins et rivières, crues et débâcles, pas plus riches qu'avant, autant sourds que de tout temps, tout est pour moi, partout. Kanawaka. Vocable ma, à la résonance vide. Lancer à une chose qui ignore habiter là et se reconnaître telle. J'ai beau parler le Kanyenkeha, je n'y entends pas plus qu'avant. Ganyadalowana. Gagne la Louana. Gagne la Louana. Gagne la Louana.
Je ne suis pas le premier.
Gagne la Louana. Gagne la Louana.
À prendre en prise en cette terre. Je vois d'ici l'ouverture du canal. Construit pour aller outre Ville-Marie.
Canal de Chine.
Je n'y étais pas, car les femmes n'ont pas leur place en ces loges du canal de Chine, encavées dans un tourbon giclé, sous le pas des hommes qui la rabattent au-delà en cet été de 1844. Je n'y étais pas. Mais je sais, moi, Mary Gallagher, qui tient commerce au coin de Dalhousie et William. Je sais ce qui s'est passé. La peine est dure à ceux qui dépendent du beau temps pour ouvrir la terre à l'eau d'un canal à venir. Par lui, on espère voir tout l'intérieur du pays se jeter à nos portes. Nous irons d'écluse en écluse porter marchandises et gens, et les rives bricatées s'en auront d'industries veillantes et prospères. Tout un cordon de manufacteurs et hautes fabriques où s'échineront travailleurs de l'âge du fer, de la tâche répétée à outrance et des gages famélèques, œuvrant pour la rail du Grand Trunk dans l'acier et le charbon aussi. Je les ai vus débarquer des bateaux cercueils où s'entassaient Corconian et Connaught, Tuzuni, rescapés du typhus et arrivés par steamer à la ville Marie. Je les ai vus trouver logis sur des terres qui leur sont louées à raison d'une piastre par mois, en parcelle de 12 par 20 pieds, y bâtissant cabane à l'aide de rugueux madriers vendus par le locateur. Ainsi vont les jours, entre le travail irrégulier, le salaire remis en bon de singe, les vivres achetés avec 60 sur le comptoir de la même compagnie et le logement, ce lieu revenant à celle-ci. Mais les journaliers firent enfin un jour autre dont j'ai souvenance meurtrie. Bloc et coalition, quand les heures s'allongèrent et les appointements se contractèrent, ils exigèrent juste rétribution. C'était le 12 juin 1843. Et en ce lundi rouge de réclamation justifiée, moururent 4 hommes, dont les noms languissent dans les bas de page de l'histoire.
Cahar Far Marav.
William Dowie.
William Dowie.
Milas O'Higgin.
Milas O'Higgin.
Thomas McBeonish.
Bernard Gormley.
Bernard Gormley.
Agus Bert Ille, na chrifeaan aithne arha.
Plus 2 inconnus passagers clandestins d'une riot de coalisés. Ancêtres syndicalisés par la faim. Grévistes déjà. Prolétaires sans le savoir. Assemblés en face de l'Hôtel Grant à Saint-Timothée. Et seul le père John Falvey les pleura et signa d'une croix compatissante et vaine. Giamine. Nora Free Giorme. Je n'y étais pas, mais je sais. Je n'y étais pas, mais je sais. Je n'y étais pas. Je sais ce qui s'est passé.
Ce matin, tôt, j'ai imaginé la terre fondre de partout et régresser jusqu'aux eaux et même jusqu'aux glaciers, glisser dessous comme un présage et un souvenir à la fois, dans une évolution glacée et inquiète qui ne saurait plus à quelle extrémité du temps se porte le futur.
Voilà, c'était une œuvre de Sylvain Campeau et Chantal Dumas, tous deux donc amis québécois, poètes, artistes sonores. Cette œuvre s'intitule Havre. Vous pouvez la commander à la Maison de la Poésie de Montréal. Elle devrait faire l'objet prochainement d'une publication donc écrite. Voilà, on laisse passer un peu de musique et place à Cécile Guivarche pour son dernier ouvrage paru dernièrement aux éditions Henri. Elle va nous dire de quoi il s'agit, puis je lirai quelques passages de ce livre ensuite.
Pack up now, baby. Not a club, gotta make my getaway. No need of weeping. There ain't no need to moan. You done me bad now, baby. Tomorrow, big bill is gone. Girl, if I can just feel tomorrow. Madeline, like I feel today. Yes, out of climb, gonna pack up. Pack up now, baby. Not a club, gotta make my getaway. Love you, baby. No one else will do. You know I'm crazy about you, baby. But you just won't be true, girl. But if I can just feel in the morning, baby, like I feel today.
Après ce long et si passionnant voyage au Canada, nous voici de retour en France en compagnie de Cécile Guivarche, poète et revuiste en ligne, dont vous avez l'habitude d'entendre ici même la chronique mensuelle. Cécile aime nous partager ses coups de cœur, et bien moi aussi. Et mon coup de cœur de la semaine, et bien c'est son dernier livre, René en elle, un court récit publié aux éditions Henri, qui s'inscrit dans une démarche de mémoire, une démarche presque identitaire, via la généalogie, qui est une autre de tes passions, Cécile, et qui nourrit ton écriture. Seulement voilà, eh bien, j'ai l'impression qu'avec René, tu as tutoyé les abîmes, car il me semble que ce nouveau livre est un peu, tu me diras si je me trompe, si c'est outrancier, c'est le récit d'une possession presque.
Oui, bonjour Christophe, bonjour, bonjour à tous. Outrancier, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que cette histoire m'a vraiment remuée. C'est une histoire qui a nourri ce livre. Ouais. C'est parce que je suis partie à la recherche d'une généalogie. Je suis tombée sur des dates un petit peu étranges et je me suis interrogée. Et c'est vrai que je suis partie peut-être un peu dans les ténèbres, là, avec en remuant des vieilles histoires, des vieux cadavres. C'était surtout pour ne pas oublier ces gens qui ont vécu avant nous. Et je pense que nous avons un peu tous le même genre d'ancêtres. Nous avons tous des secrets de famille.
Voilà.
Voilà. Ouais. C'est surtout là que j'ai voulu aller explorer.
Oui. Alors, juste pour préciser à nos auditeurs, ton aïeule Renée est née à la fin du XVIIIe siècle. Elle est morte à Quimper en 1817. Et on a le sentiment qu'elle t'attendait au coin du bois. Et que finalement, lorsque tu as surgi, elle s'est vraiment levée en toi pour ne plus te lâcher. Est-ce que tu l'as vécu comme ça ?
Tout à fait, oui, tout à fait. Elle m'accompagnait partout. Même une fois, je suis allée au hammam avec des amis pour me détendre. Et en fait, je n'ai pas du tout pu me détendre parce qu'elle était tout le temps là dans ma tête à me parler. Et voilà, en fait, c'était une nécessité. Enfin, c'est vraiment comme si elle était revenue. Enfin, moi, dans ma tête, dans mon corps, je le vivais vraiment comme si elle avait été près de moi.
Ouais.
Et quelque chose d'assez étrange qui s'est produit, hein, qui est juste le temps de l'écriture du livre.
Hein. Ouais. Alors, voilà. Pour être précis, donc l'héroïne de ton livre, c'est, tu le dis, hein, la mère du père, de l'arrière-grand-père de ton père. Et dans quelles circonstances tu as fait sa connaissance ? Donc, il y avait des dates un peu étranges. Et tu as été fouillée. Comment tu as fait ?
Alors, en fait, mon père m'avait dit que son grand-père habitait à Nantes et que ses arrière-grands-parents venaient de Quimper. Donc, j'ai voulu vérifier ça. Je suis allée sur un forum à Nantes. On m'a expliqué comment chercher dans les archives numériques, parce que maintenant, tout est numérique. On n'a plus besoin de se déplacer. Il y a beaucoup de choses en ligne. Je suis tombée donc sur sur mon grand-père, là, dans les archives enfin mon arrière-grand-père, dans les archives de Nantes, et j'ai pu donc trouver que ses parents étaient nés à Briec. Et donc c'est comme ça que je suis atterrie sur les archives de Briec en Bretagne, près de Quimper. Hein. C'est quand même pas à Quimper, c'est à 20 ou 30 kilomètres. Et je surmontais, c'était passionnant, je m'arrêtais plus la nuit de chercher ces ancêtres, j'arrivais à en trouver un, puis un autre, puis un autre. Et je suis arrivée donc sur René Guivarche avec des dates de mort en 1817, je crois qu'elle est morte en octobre ou novembre, et son mari, deux ou trois mois plus tard, en fait, le soir de Noël. Donc je me suis interrogée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont morts aussi proches? Et pourquoi ils ont des enfants assez jeunes? Est-ce qu'il y a eu une épidémie à cette époque-là? Et c'est comme ça que je suis allée sur un site de généalogistes dans le Finistère. Et j'ai demandé tout simplement s'il y avait eu une épidémie à Quimper dans ces années-là. Et là, ils m'ont dit, mais non, il n'y a pas eu d'épidémie. Et ils m'ont dit, puis c'est quand même bizarre qu'elle soit morte à Quimper. À cette époque-là, les gens ne se déplaçaient pas. Il y a quelque chose. Et c'est des vrais enquêteurs, en fait, les généalogistes. Très vite, on a remonté le fil. Ils m'ont dit, mais en fait, il y avait eu une autre naissance. Elle allait peut-être aller à Quimper pour mettre au monde un enfant. Elle avait peut-être des difficultés. Donc, ils ont effectivement retrouvé la naissance d'un autre enfant à Quimper. Et ils m'ont dit, mais c'est bizarre parce que les noms des témoins de la naissance et de la mort sont les mêmes. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé que c'était les gardiens de la prison.
Oui.
Voilà.
Donc, elle a connu un destin tragique. René, on ne va pas entrer dans le détail pour maintenir un peu quand même le suspense. Mais elle a connu réellement un destin tragique. Et on a parfois le sentiment, en te lisant, que tu... Alors, tu me pardonneras cette comparaison. Mais on a le sentiment que tu revis sa passion comme le chrétien est invité à revivre la passion du Christ pendant la semaine sainte. Toutes ces étapes, les étapes de son calvaire, tu les revis une à une. Ça a été éprouvant.
Oui, ça a été une écriture un peu éprouvante parce que j'ai écrit vraiment. Oui, je me suis vraiment mis à sa place, quoi. Enfin, c'était, je sais pas, comme si j'avais été touchée par une grâce ou quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et je ne sais pas si ça se reproduira un jour pour un autre livre, mais là, c'était vraiment très particulier.
Ouais. Alors, je disais tout à l'heure que le livre, c'est comme un peu le récit d'une possession. Je voudrais juste lire un extrait qui, à mon sens, en témoigne. Hein. C'est page 20. Que me dit René ? Je commence à percevoir quelques bribes. Sa voix de plus en plus claire monte et s'approche. Je perçois ses syllabes maintenant nettes, des syllabes qui s'assemblent, sûrement des mots, des phrases qu'elle forme. Ils sont dans sa langue, une langue qui est la sienne. De sa langue, je ne connais que quelques rudiments élémentaires et bien peu encore. Répète-moi ces mots, René. Ce sont toujours les mêmes qu'elle prononce. Recommence. René, encore et encore, jusqu'à ce que je les mémorise tout à fait, que je les écrive dans mon carnet à mon réveil. C'est-à-dire que ça s'est passé réellement comme ça. René te parlait dans tes rêves ?
Oui, effectivement, la nuit, j'en ai rêvé. J'en ai rêvé le soir en m'endormant, le matin en me levant, dans la journée, comme je disais, au hammam, alors que j'aurais dû me détendre. Enfin, elle était là. Dès que j'arrivais, que je pouvais écrire, c'est la première chose que je faisais en arrivant devant un ordinateur ou une feuille de papier.
Ouais. Alors, dans les dernières pages du livre, c'est elle, hein, René, qui prend la parole, qui s'adresse à toi. Elle te somme presque de faire connaître son histoire à tes propres enfants. Après quoi, dit-elle, elle acceptera de s'en aller, mais pas avant. Et je me dis que c'est pas un hasard, parce que pendant 2 siècles, finalement, personne dans ta famille n'a mentionné le nom de René. Il a fallu ce livre pour qu'elle se remette à exister.
Oui. Effectivement, mon père, au début, quand je lui ai parlé de cette histoire, il ne voulait pas que j'écrive sur René, parce que tout de suite, il a dit, mais c'est un déshonneur. Ça va déshonorer la famille. Mais moi, je ne le perçois pas comme ça. Je pense que dans nos familles, on a tous eu des petits secrets de famille. Et je pense qu'à l'époque, ce n'était pas les mêmes époques non plus. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier. Il faut refaire revivre ces gens du passé, même si on doit nous aussi aller de l'avant. Il ne faut pas oublier que ce sont ces personnes-là qui nous ont fabriqués.
Oui. Est-ce que finalement, tu ne t'es pas lancé dans la généalogie pour découvrir ce secret de famille ?
Peut-être. J'avais peut-être besoin de découvrir un secret de famille. C'est vrai que ma sœur m'avait parlé aussi de psychogénéalogie, donc j'ai lu un petit peu dessus. Bon, je sens que on est tous faits de secrets de famille et je pense que ça peut nous libérer aussi certaines tensions qu'on n'a peut-être pas compris.
On est habité par nos morts, finalement.
Voilà. Même si on n'en a pas envie, on est habité quand même par eux. Il y a des personnes qui vont me dire, mais il ne faut pas regarder les choses du passé et tout. Mais bon, moi, je pense qu'on s'est construit quand même grâce à tout ça.
Oui. Voilà. Alors ton écriture, hein, c'est une écriture qui est très nerveuse. On sent vraiment à quel point ce sujet t'a hanté. C'est un livre que tu as écrit vite, dans l'urgence, et que tu as ensuite retravaillé, ou il y a eu comme ça, il est sorti presque comme ça des limbes, finalement, tel qu'on le lit aujourd'hui.
J'ai quand même dû l'écrire sur une période de 2 mois à peu près quand même. Deux mois, c'est court quand même. C'est pas non plus en une nuit. C'est pas sorti en une nuit. Non, elle m'a vraiment habité pendant... Et avant d'écrire ce livre, j'avais écrit un autre livre qui était paru aussi aux éditions Henri. Vous êtes mes aïeux.
Vous êtes mes aïeux, oui.
Voilà, et j'ai écrit René ensuite. Ouais. Et pourtant, dans Vous êtes mes aïeux, j'en parle déjà de René. Ouais. Donc, elle avait commencé à me travailler au corps avant, quand même.
Alors oui, parce que tu dis, page 58, que René ne t'a pas choisi au hasard, et il a choisi, dis-tu, celle qui lui ressemblait le plus et qui comprendrait sa douleur. En quoi ressembles-tu à René ?
Je ne sais pas, peut-être... J'ai sûrement voulu écrire ça parce que la maternité, pourtant moi j'ai pas perdu, parce que René a perdu beaucoup d'enfants, moi j'en ai pas perdu, mais peut-être qu'il y a une sensibilité qu'elle a eue qui était très forte pour peut-être ces femmes de l'époque, de perdre ses enfants. Les femmes à l'époque l'acceptaient et elles, on a imaginé qu'elle l'avait pas accepté. Et je pense que c'est plus cette sensibilité-là qui doit me rapprocher d'elle, en fait.
Oui. Voilà. Et elle a finalement une sensibilité moderne par rapport aux femmes de son époque, peut-être ?
Voilà. En fait, c'est ce qu'on a pu imaginer, parce qu'avec les généalogistes avec qui j'ai fait ces recherches, on a rassemblé notre mémoire collective et on a imaginé son histoire à partir de quelques dates et de documents qu'on a retrouvés qui peuvent permettre de vérifier les choses.
Ouais. Et puis, alors, donc, la lecture de ton livre nous apprend aussi des choses intéressantes hein, sur le milieu et l'époque où René a vécu. Je le disais, c'est à cheval entre le 18e et le 19e siècle. Pour faire court, c'est en Bretagne, chez des paysans pauvres, et c'est une vie très rude. Hein, très rude. La mort est toujours présente.
Oui, et à l'époque, c'était comme ça. Ouais. Pas seulement en Bretagne, c'était un peu comme ça. Enfin, les enfants mouraient, les gens travaillaient dur. Il y avait encore la révolution venait juste de se faire, mais il y avait encore... c'était pas fini, ça continuait quand même un petit peu.
Ouais. Cécile, un grand merci pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que ton livre René en elle est paru aux éditions Henri et qu'on peut le commander soit chez son libraire, soit directement à l'éditeur sur www.editionshenri.com.
René, mon aïeul, devrais-je lui dire que je l'aime ? Ou est-ce autre chose ? Elle m'attire, m'empêche de dormir. Je la sens, chaque nuit, passer son souffle sur mon corps. Elle reste, plus ou moins longtemps, à me regarder, à m'effleurer. Puis elle finit par pleurer. Ses plaintes tantôt murmurent, tantôt minces sanglots s'immiscent entre mes lèvres. Souvent j'entends l'orage, la tempête se déchaîner avec éclairs, tonnerre, pluie battante, torrent, boue et sang. Je l'entends, René, et sa douleur. Je vois son visage se déformer, sa bouche crier et son cœur jaillir doucement, puis à gros flots. De sa bouche s'écoule la rivière de son corps, de ses peines, de ses souffrances. D'abord une rivière lente et fluide, puis torrentielle, épaisse, nauséabonde, remplie des objets de sa vie quotidienne, de sa maison délabrée, de quignons de pain, de restes de nourriture. Des gens passent, parfois avec un bras levé, d'autres sont déjà morts, flottant comme de gros morceaux de bois. Des enfants aussi, des enfants qui pleurent leurs parents, des nourrissons, des cercueils, petits et grands. Elle s'est laissée aller à crier et mourir entre les pierres. Elle continue encore, des années après, à venir nous hanter de ses peurs, de sa vie, de sa mort. Elle n'est d'ailleurs pas vraiment morte, René. Elle a continué sa vie dans le sang de la lignée. Ils ont gagné leur pain, ont construit leur maison. Ils sont allés chaque dimanche à l'office prier Dieu, prier pour effacer les peines, pour que René soit pardonnée et qu'elle puisse reposer en paix. Ils ont prié pour tous les pécheurs et pas seulement pour elle. Ils ont veillé dans les églises. Dieu les a veillés. Dieu a pris soin aussi de René, même si elle ne l'a pas cru. Elle s'est sentie abandonnée comme un petit enfant privé de père et mère. Abandonnée par ce Tout-Puissant jusque dans sa mort. Quelqu'un lui a-t-il tenu la main pour lui dire que tout irait bien ? Je me demande si elle a pu entrevoir une lumière sur ce lit où elle crachait du sang mêlé à ses larmes asséchées. Elle n'a pas de crainte à avoir, René. Ses enfants, leurs enfants et ceux qui ont suivi ont toujours eu foi en elle. Son nom n'a jamais été vraiment relégué à travers les générations. Aujourd'hui, je le rappelle, René. Quand elle est morte,
Le plus petit de ses enfants, Jean, n'avait que 3 ans. 3 ans. C'est jeune, pour ne plus sentir l'odeur de sa mère, ni entendre ses berceuses le soir. La même année, il a aussi perdu son père, un soir de Noël. Tout cela est inscrit dans les registres, le jour de la mort de René, le jour de la mort de Jean, son mari. Les témoins de la mort de René sont indiqués. L'un a un nom qui sent la viande et le sang, le boucher. Ce mystère, celui de la mort de René à Quimper en 1817, une époque où dans son milieu on ne se déplaçait que de manière occasionnelle, une époque où l'on mourait facilement de maladie, de dysenterie, de froid ou de faim. Une époque où l'on n'hésitait pas à couper la tête aux malfrats. Et son homme, est-il mort de chagrin, pendu à une poutre, les pieds se balançant dans le vide? Elle allait ronner par des sentiers qui n'existent plus. Je l'imagine se dandinant avec ses gros jupons, sa coiffe et ses sabots. Devant elle sautille son grand garçon, Pierre, et dans chaque main, elle tient un autre de ses enfants, Mathias et Jean. Dans son ventre, un petit à naître, pour bientôt peut-être. Derrière elle, ceux qu'elle n'a pas eus, ceux qui ont dévalé les rivières de son sang et qui sont nés puis morts aussitôt. Pour ces derniers a été inscrit sur le registre anonyme G, avec une date, une heure, des témoins et la signature de Jean, le mari de René. Certaines de ses filles, certains de ses garçons sont morts en grandissant, emportés par la maladie, le froid, la faim ou un accident malencontreux. J'entends parfois dans mes rêves l'un d'eux crier au fond d'un puits, presque un adolescent, peut-être le premier Jean, remplacé par un second du même prénom. Puis se sont poursuivies les naissances, jusqu'à ce que l'on m'enfante, moi aussi. Voilà, c'était quelques pages de René en elle, de Cécile Guivarch, publié aux éditions Henri. Je vous rappelle le site des éditions Henri, www.editionshenri.com. Vous pouvez, vous devez le commander, c'est un livre poignant. Je vous propose à présent de rejoindre notre ami Patrick Jockel qui a, je le suppose, sous le coude quelques coups de cœur du mois.
Eh bien, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui est sorti en 2010, que je viens de découvrir en 2015. C'est-à-dire que ce petit livre de poèmes n'a pas eu le succès escompté, qu'il est passé plutôt inaperçu, et c'est assez étonnant puisque c'est un livre qui est publié chez Chêne Éditeur et qui est signé David Dumortier, un des auteurs phares de la collection Poèmes pour grandir des éditions Chêne. Le titre de cette petite merveille, Les bateaux qui parlent. Une collection de bateaux, de la pirogue au pétrolier, en passant par le kayak et le you-you. Cela pourrait ressembler à un abécédaire. Eh ben non. Cela pourrait être fastidieux. Non plus. Ça se présente sous forme de petits pavés de prose illuminés par des gestes lumineux de Martine Mélinette. Des textes pleins de sagesse, d'empathie, de justesse. Rien d'aussi simple que cela en a l'air à la première lecture, comme souvent en poésie. Et c'est ainsi que je l'aime, la poésie résistante mais lisible, humaine et profonde, simple. C'est une marque de fabrique chez David Dumortier et je m'étonne que ce livre ait mis 4 ans à arriver jusque chez moi, grâce à la médiathèque de Moinsartou d'ailleurs, comme quoi la vie des livres échappe aussi bien à leur auteur qu'à leurs éditeurs et qu'à leurs lecteurs. Alors quelques extraits. Des bateaux qui parlent. Parfois les hommes reviennent en bateau déranger l'oubli qui les a remplacés et on leur en veut de faire de nous des gens préférant les attendre. Le radeau. Pour en fabriquer un sans trop se fatiguer, on peut utiliser une palette en bois, en arrimant solidement dessous des bidons vides. Avec ce radeau de fortune, on ne peut guère aller loin. Les enfants passent d'ailleurs plus de temps à le réparer qu'à le mettre à l'eau. C'est surtout l'idée de partir qui doit faire son chemin. Un qui a toute ma tendresse, c'est le pointu de la Méditerranée. Tout est rond sur le pointu. Le visage des pêcheurs, l'horizon, le soleil couchant, le ventre des dorades et l'accent de Marseille. Seuls sa proue et sa poupe sont pointus. Mais ne soyons pas trop carrés sur ce genre de mots, arrondissant les angles et que notre langue ait le relief des calanques. Ainsi, le pointu est pointu comme une sardine. Rien qui puisse blesser une vague. Le kayak. Arluc se retourna dans son kayak. Utilisé à l'envers, son bateau se lisait toujours kayak. Il pagaya dans le paysage de neige, en allant si loin qu'il ne sembla plus être qu'un trait sur une page blanche. Oui, juste un point, maintenant qu'il s'était encore enfoncé dans le pays des ours polaires. Voilà Arluc, l'Inuit, ne laissait à notre vue qu'un point de nuit, emmitouflé dans un immense anorak de froid. Les yoles de Martinique. Le nom des yoles de Martinique habite à côté du yiddish et un peu avant le zend. Écrasés sous le poids du dictionnaire, leur coque s'est aiguisée, étirée, épurée. Tous les ans, ces barques de sueur font le tour de l'île pour briser les fers de la terre encerclée. Ce jour-là, l'océan est lui-même déchaîné. Les hommes coupent avec leurs machettes les cannes du vent. Et puis, pour finir, le you-you. Il jouait au yo-yo entre son navire au mouillage et le quai. Une nuit, le câble qui le retenait se détacha. Et voilà qu'il partit en haute mer. Mais où aller quand il n'y a pas de route? La petite navette du port dériva ainsi très loin de nous comme une demi-coquille de noix se noie dans les marrons bruns de l'automne. Seulement, la mer est immensément bleue, alors le you-you prit la couleur des amis que l'on ne reverra plus. Voilà, les bateaux qui parlent, David Dumortier, et c'est chez Chêne Éditeur. À bientôt.
J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent, assis sur le bord des fleuves, ils regardent s'en aller dans la mer, les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'Ava Gardner. Ça met dans leurs yeux un air de savoir que tout va dans la mer. La jeune fille adoucit des soirs de verre, les bateaux, les avions de guerre, la beauté d'Ava Gardner. Du monde, filez nos belles enfances blondes, Edith Nylon, les nageuses à l'envers, les odeurs dans les chemins de fer, la beauté d'Ava Gardner. Qui trouve que tout ce qu'on gagne on le perd, qui voudrait changer le sens des rivières, retrouver dans la lumière la beauté d'Ava Gardner. trouver les choses premières, la beauté d'Ava Gardner.
Eh bien ça, c'était mon petit coup de cœur perso du mois, la beauté d'Ava Gardner d'Alain Souchon, musique de Laurent Voulzier, bien sûr. Nous arrivons presque au terme de cette émission, il nous manque encore une pièce au puzzle, et cette pièce est dans la poche de Claude Verset qui va nous présenter un coup de cœur, lequel je ne sais pas, je vais le découvrir avec vous, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de La Route Inconnue. Il sera sûrement question du printemps de Durset, cette manifestation poésie de poésie qui est initiée par notre ami Jean-Claude Touzet. Je vais aller y faire un tour, traîner dans les allées de la salle des fêtes de Durset et poser quelques questions des poètes et des éditeurs. Donc, dans 15 jours, excellent week-end à tous et à toutes.
Bonjour à tous, bonjour Christophe. Il y a encore quelques temps, on aurait volontiers accusé les poètes d'aujourd'hui d'être absents de leur siècle et d'avoir renoncé à témoigner. Et voilà que tout soudain, et surtout à cause des attentats parisiens de janvier, une vague de poèmes nous a submergés, irrépressibles sous le coup de l'émotion. Quand l'émotion sera refroidie, il faudra bien le constater, une vague de poèmes médiocres pour la plupart. Parce qu'ils ont renoncé, sous prétexte d'urgence et d'émotion, au questionnement actuel de l'écriture poétique. Or, l'urgence et l'émotion ne sont pas des excuses suffisantes pour être conduits à ce qui ressemble, d'un point de vue artistique, à une régression. Et pour preuve qu'on peut à la fois témoigner de son temps et conserver les exigences d'un art d'aujourd'hui, le livre de Denis Eudré, intitulé « Bleu naufrage », récemment publié aux éditions de La Sirène étoilée, est sous-titré « Élégie de Lampedusa », ce qui laisse deviner quels en sont l'objet et les circonstances d'écriture. Denis Eudré, H-E-U-D-R-E, accent aigu. Denis Eudré n'est pas le plus connu des poètes actuels. On peut même dire que jusqu'à ce livre, il ne s'était signalé que par quelques textes épars sur les blogs et dans les revues. Bleu naufrage m'a cependant paru important et j'en ai rendu compte sur le blog de Décharge. Et quelques jours plus tard, ce livre recevait le prix Paul Quéré, qui était attribué pour la première fois, et qui apportait confirmation qu'il faudra, oui, désormais, être attentif aux écrits du poète Denis Eudré. Bleu naufrage. Je lis la prière d'un ciré. Le 3 octobre 2013, des centaines de migrants ont trouvé la mort en Méditerranée, tout près de Lampedusa. Le 3 octobre 2013 et les jours suivants, j'ai ressenti comme un dégoût d'être là, devant ma télé, devant mon petit confort. Des corps sont étalés par terre dans des linceuls en plastique, des corps devenus choses déposés sous nos regards blasés. Des femmes, des enfants, des hommes dont on ne saura jamais rien de leur vie, pas même leur nom. J'ai voulu écrire et continuer de ressentir sans m'imposer de forme ni de contraintes. Je voudrais noter ici une difficulté d'écriture spécifique à notre temps. La méfiance que désormais la majorité d'entre nous porte à l'endroit des idéologies rassembleuses ou ce qui leur ressemble, à l'endroit de toute pensée globalisante. Et le coup de génie de Denis Eudré, bon, le mot est peut-être excessif, disons, ce qui transforme assurément l'émotion en geste artistique et qu'il se garde de prendre en charge toutes les victimes indifférenciées dans une même catastrophe, ce qui l'aurait certainement mené à un apitoiement sur sa propre impuissance. Non, il rétrécit le champ, le met à sa mesure, serre l'objectif sur un seul de ses naufragés. Il s'en explique, toujours en prière d'insérer. Un des petits cercueils blancs portait numéro 15. C'est le nom que j'ai gardé pour cet enfant à qui je pense régulièrement. Ce faisant, en lui donnant un nom, ne serait-ce que celui de 15, Denis Eudray rend à cette petite victime une humanité. Je lis, pour terminer, quelques fragments tirés des premières pages de ce livre. Je ne sais rien de toi. Je ne sais pas si tu es un garçon. Je ne sais pas si tu es une fille, encore moins ton nom. À ton cercueil blanc, je te sais enfant. Je sais que ta couleur noire assombrit nos âmes de nantis. Je t'appellerai 15. C'est peut-être ton âge, c'est le numéro sur ton cercueil. Les hommes avec toi voyaient les femmes d'ici avec des baisers de coquelicot. Ils pensaient réussir à apprivoiser le cristal et l'acier de notre histoire. Ils ont cru aux mensonges des miroitements et au bleu de ce qu'on raconte. Vito, Fiorino, Raffaele, Colapinto, pêcheurs sauveurs, les nouveaux justes. Des sacs bleus ouverts. Un seul insupportable à même le quai du port, fermé à jamais sur nos yeux inconnus. Des centaines de cercueils, le photographe n'en recueille que 48 et 4 enfants. 14, 15, 92, 93, pour eux, dernier luxe dérisoire, de beaux cercueils nobles sur le sol d'un hangar. Les cercueils blancs touchent de piano pour une triste musique. Cimetière de Lampedusa, où les citoyens italiens ont un nom, et les malheureux venus d'Afrique, un nombre. 14, 15, sans papier, sans nom, et maintenant sans larmes pour les pleurer. Bleu naufrage, élégie de Lampedusa, de Denis Eudray, publié aux éditions de La Sirène étoilée. On commande ce livre par l'intermédiaire du site de ces éditions, La Sirène étoilée. Bonne lecture et à bientôt.